Nous terminons aujourd'hui notre étude, notre examen du livre de la première épître de Pierre, son premier livre qu'il nous a laissé dans la Bible, première épître de Pierre. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans ce passage, chapitre 5. Première épître de Pierre, chapitre 5, ce sont les trois derniers versets qui vont nous intéresser ce matin. Et certains pourraient se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien apporter sur les quelques derniers versets, de, on va dire, d'au revoir d'une épître qui a été écrite il y a bientôt 2000 ans à des chrétiens qui étaient persécutés, qui étaient un peu dispersés partout. Quel impact pour nous aujourd'hui, 21e siècle? On est plutôt confortable par rapport à ces gens-là. On est dans un contexte complètement différent. Et en effet, vous allez voir que il y a pas mal de choses pour nous à retenir dans ce passage. Et dans la première épître de Pierre, chapitre 5, versets 12, 13 et 14, permettez-moi de lire ces versets, puis nous remettrons ces moments entre les mains de Dieu par la prière. Verset 12. « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi qu'Omar, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. » Prions. Oui, Seigneur, nous nous tournons vers toi pour demander ton aide, pour comprendre ta parole, que tu nous éclaires par ta puissance afin de nous aider à saisir la vérité que tu as pour nous, pour la mettre en pratique, qu'il soit évident que c'est toi qui le fais, Seigneur, pour que toi, tu sois exalté et glorifié dans notre vie. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Pierre termine sa lettre et avec ce verset 12 sur lequel nous revenons, il semble, et je crois qu'on peut très bien le supposer à juste titre, que cet homme, Sylvain, on va parler de lui dans quelques instants, mais c'est lui qui aurait écrit, alors que Pierre dictait cette lettre, donc jusque-là, et qu'à partir de verset 12, ben, c'est Pierre lui-même qui commence à écrire. Lui, il aurait dicté jusque-là, mais maintenant, Pierre, de sa propre main, eh ben, il va prendre, non pas le stylo, mais l'instrument qu'ils auraient utilisé à l'époque, pas sa tablette, pas son ordinateur, mais voilà, les instruments qu'ils avaient à l'époque. Et maintenant, lui-même, c'est pas une dictée, c'est pas quelqu'un d'autre qui écrit pour lui, c'est lui-même qui va, entre guillemets, signer cette lettre, et va partager ses derniers sentiments, ses dernières paroles avec ses chrétiens, encore une fois, dispersés un peu partout, ça nous l'apprenons au début de la lettre. Et donc, nous voyons l'attachement de Pierre, ici, pour ses chrétiens. Il se dit, je vous aime, j'ai écrit ceci dans un but, on le voit au verset 11, verset 12, je veux dire. Il avait un but bien spécifique et il voulait que ce message passe. Il ne voulait pas qu'après tout ce qu'il a dit, eh ben, que ces chrétiens passent à côté de cette vérité extraordinaire qu'il voulait transmettre. Alors, au verset 12, il est effectivement question de Sylvain. Et il faut savoir, peut-être vous le savez, mais juste au cas où, vous ne le saurez pas, il est question ici de Silas, le compagnon par moment de l'apôtre Paul, qui, souvenons-nous, était avec Paul à Philippe, lorsque tous les deux sont jetés en prison, et on peut dire jusqu'au fin fond, ils étaient dans le noir, ils avaient les pieds, les mains attachés, et vous connaissez peut-être cette histoire qui semble à nos yeux tellement incroyable. Là, dans le noir, après avoir été battus, lorsqu'ils souffrent, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient et ils chantent. Alors, réfléchissons plutôt à ça la prochaine fois que nous passons par une souffrance extrême. Est-ce que chanter, c'est la première chose qui vient à notre esprit? Peut-être pas, mais peut-être ça devrait l'être. Et là, Dieu les délivre de façon miraculeuse. C'est ce même Silas dont il est question ici. Donc il paraît que Silas, il est parti des côtés de Paul, et maintenant il est avec Pierre. On va parler dans un instant de où se trouve Pierre à ce moment-là, mais voilà, Silas est avec lui. Et puis, au verset 13, il est question de Marc. Alors, il s'agit de Jean-Marc, le cousin de Barnabas, qui était aussi un des compagnons par un moment de voyage de l'apôtre Paul. Et c'est aussi lui qui a écrit l'évangile qui porte son nom, Marc. Et c'est parce que Pierre le mentionne ici et à travers l'histoire que nous apprenons que Marc, ne voyant pas tous les événements des évangiles dont il parle, aurait eu connaissance de ces choses à travers Pierre. Parce que Pierre, lui, il les a vus de ses propres yeux pour la plupart. Donc nous voyons que ces hommes, Silas, Marc, sont avec Pierre, là où ils se trouvent. Et Pierre arrive à la fin de cette lettre, il dit « Je vous écris ce peu de mots ». Alors, on lit la première épître de Pierre et on se dit « Mais si c'est ça, peu de mots, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est un grand nombre de mots ». C'est parfois ici en France, on voit le petit bris. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, si c'est ça le petit, à quoi ressemble le grand? Donc voilà, on est un peu étonné. On se dit, nos références, nos points de repère ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Mais aux yeux de Pierre, finalement, il n'a écrit que très peu. Il aurait voulu partager tant d'autres choses, mais le temps, peut-être des moyens, peut-être Silas arrivait à la fin du rouleau sur lequel il écrivait et Pierre s'est dit « Ah là, je dois m'arrêter ». Et donc Pierre dit « J'ai écrit quelques mots, pourquoi ?» Alors ici, Pierre explique la raison derrière sa lettre. Et c'est très important pour nous. Il dit « Je vous ai écrit ce peu de mots pour vous exhorter, pour vous attester ». Que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attaché est la véritable. Dans une phrase, il résume cet épître, cette lettre qu'il écrit, et partage quel est vraiment le sentiment de son cœur, son désir suprême pour ces chrétiens auxquels il écrit. Et finalement, cela tourne autour de la grâce de Dieu. Il dit la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attaché. Et finalement, lorsqu'on examine un peu plus dans le grec, Pierre est en train de dire, oui, vous êtes attaché à cette grâce de Dieu, mais il faut y rester attaché. Finalement, il y a un impératif dans cette phrase. Pierre reconnaît que ces chrétiens sont attachés à la grâce de Dieu, mais il leur dit, restez attachés. Vous êtes attachés, mais restez. Ne vous laissez pas détacher de cela, de la grâce de Dieu. Et finalement, ce qui préoccupe l'apôtre Pierre dans cette lettre, c'est de s'assurer que les chrétiens auxquels il écrivait ne se détachaient pas de la grâce de Dieu. Et c'est là où on se pose la question, mais la grâce de Dieu, c'est quoi finalement? Parce qu'on ne peut pas la voir. La grâce de Dieu, on en parle très souvent, on parle de grâce à Dieu et que la grâce de Dieu soit avec toi et grâce à Dieu j'ai pu faire ceci ou cela. Et finalement, ça peut rester un peu une image, quelque chose qu'on a du mal à définir. Et du coup, comme ça reste un peu flou, on ne met pas trop l'accent là-dessus et on vit notre vie tranquille, notre vie de chrétien si nous le sommes. Et sans grande incidence sur notre vie. Alors que la perspective de Pierre est tout autre. Pour lui, la grâce de Dieu était presque tangible. C'est presque comme s'il pouvait la toucher. Et à ce moment-là, on se dit, mais comment? Si la grâce de Dieu pour Pierre était quelque chose de tellement important, et c'était quelque chose qui devait avoir un impact dans la vie de ces chrétiens, cela est vrai pour nous aussi, mais comment? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est ici, on parle de la grâce de Dieu. À la fin du verset 14, on parle de tous ceux qui sont en Christ. Et comme nous avons vu depuis le début de cette lettre, Pierre est en train de s'adresser à des enfants de Dieu, à des personnes sauvées. il ne s'adresse pas à toutes les personnes sur la terre, à toutes les personnes confondues. Non, finalement, il est en train de s'adresser à des personnes qui sont sauvées, des personnes qui ont reçu cette grâce de Dieu. Et c'est ça le point de départ, vous le savez sûrement parce qu'on en parle très souvent ici, mais c'est le premier pas. C'est la plus grande décision qu'on puisse faire, accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Si on n'a jamais fait cela, la suite de ces versets n'est pas pour nous. C'est dommage. Ça pourrait l'être si on donnait sa vie à Jésus aujourd'hui, mais si on ne l'a pas encore fait, finalement, ceci va rester de belles paroles sur une page et des idées peut-être qui peuvent attirer un peu, mais sans plus. Donc Pierre, il parle à des personnes qui sont sauvées par la foi en Jésus-Christ. C'est la seule façon d'être sauvé par Jésus-Christ. Donc voilà, c'est la base, c'est le fondement. On ne peut rien construire sans ça. Mais, gloire à Dieu, si on est sauvé aujourd'hui, et je prie que tout le monde ici le soit, on peut partir sur cet examen de voir la grâce de Dieu. Puisqu'on a vraiment l'impression que Pierre, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'il peut voir. La grâce de Dieu n'est pas une idée assez floue. Peut-être c'est là, mais on n'arrive pas trop à la définir. Non, pour lui, c'est quelque chose de très clair et ça devrait l'être également dans notre vie également. Et finalement, on va voir juste deux grandes idées ce matin. La première, c'est que la grâce de Dieu se voit par un changement de comportement. Et on a parlé de cet homme Silas. J'ai évoqué les circonstances dans lesquelles nous le voyons pour la première fois. Il est avec Paul dans son deuxième voyage missionnaire. Finalement, Silas, il a pris la place de Jean-Marc. Lorsque Jean-Marc a abandonné lors du premier voyage, le deuxième voyage, au lieu de prendre Jean-Marc, Paul, lui, il va prendre Silas. Ils vont aller visiter des villes. Et c'est effectivement à Philippe où, après avoir délivré une jeune fille de la possession démoniaque, ils sont arrêtés, Paul et Silas, ils sont battus, ils sont mis en prison. Et là, ils chantent, ils prient. Dieu les délivre miraculeusement. Et cet homme dont Pierre parle dans ces termes, qui est à mes yeux un frère fidèle. Alors, un changement de comportement dans la vie de Silas. Pourquoi ? Parce que Silas n'est sûrement pas né fidèle. Silas est né pécheur comme vous et moi. Silas avait sûrement ses propres luttes, ses propres combats. Et comment est-ce qu'il est arrivé à accompagner Paul ? Comment est-ce qu'il est arrivé à accompagner même Pierre, être là pour écrire cette lettre, de recevoir ce témoignage ? Lui, c'est un frère fidèle. Pour que les chrétiens de tous les siècles après puissent savoir que cet homme, c'est vraiment un frère formidable. C'est quelqu'un sur lequel on peut compter. Comment est-ce que Silas, il a pu avoir cela ? Parce que c'était un type sympa ? Parce qu'il a fait de toutes ses forces, tous ses efforts. Non. Finalement, c'est la grâce de Dieu qui a agi dans la vie de Silas. Et c'est la grâce de Dieu qui peut nous rendre fidèles également. Dans notre vie qui est par moments très dure, dans notre vie qui est par moments à nos yeux injuste, nous devons avoir ce témoignage d'être fidèles. Des personnes sur lesquelles les autres peuvent compter. Silas était comme cela. Et Silas était quelqu'un non seulement sur lequel Pierre pouvait compter pour écrire cette lettre, mais apparemment c'est par lui que Pierre a envoyé cette lettre. C'est Silas qui avait fait le voyage de Rome, où était Pierre probablement, alors ça on va voir dans un instant, jusqu'à ces chrétiens auxquels Pierre écrivait. Alors, à l'époque, pas de voiture, pas de métro, pas de bus, pas de train, pas d'avion. Non. Soit à pied, ou à cheval, sur l'âne, sur un chameau. C'était très long, c'était très difficile, mais Silas, appelé Sylvain ici, était prêt à faire cela. Et c'est la grâce de Dieu qui l'a rendu fidèle. Et s'il y a quelque fidélité en vous ou en moi, ben finalement, ça c'est une marque de la grâce de Dieu. Ce qui fait que s'il n'y a pas de fidélité en nous, si nous ne sommes pas des gens sur lesquels les autres peuvent compter, et c'est parce que probablement nous ne laissons pas la grâce de Dieu agir en nous. Alors Silas, un frère fidèle. Mais regardez le verset 13, on a évoqué un deuxième personnage, puisque Pierre va dire « Marc vous salue ». Alors, Jean-Marc. Et encore plus que Silas, je trouve que le témoignage de Jean-Marc est quelque chose d'extraordinaire. Puisque, souvenons-nous, Jean-Marc est cet homme qui est parti bien volontiers avec Paul, avec Barnabas. Alors, c'est le cousin de Barnabas. Et donc, de la famille, Barnabas le prend avec lui. Et pour ce premier voyage missionnaire, probablement face aux persécutions qui étaient survenues dans quelques-unes des villes, Jean-Marc abandonne. Et malheureusement, on retient presque toujours que cela, Jean-Marc, qui a abandonné en cours de route et qui est rentré chez lui. C'est triste. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Finalement, il n'était pas fidèle à ce moment-là. Il a abandonné. Et c'est cela qui a poussé Paul, pour le deuxième voyage missionnaire, de dire « Ah non, il m'a déjà fait le coup. on l'a pris une première fois, mais là, je ne peux pas travailler avec quelqu'un comme ça. J'ai besoin de quelqu'un de solide, quelqu'un sur qui je peux compter alors qu'il prend Silas. » Barnabas prend Jean-Marc. Donc les deux se séparent. D'ailleurs, ça a créé une division entre Paul et Barnabas. Mais finalement, Dieu s'est servi de cela pour faire deux équipes missionnaires. C'est vraiment extraordinaire. Mais maintenant, des années plus tard, quelques décennies, il se peut, 10, 15, voire jusqu'à 20 ans plus tard, Jean-Marc, il est auprès de Pierre. Pierre le considère comme son fils, non pas dans la chair, mais vraiment quelqu'un qui l'a enseigné, qui l'a, comme on dit, réhabilité, qu'il a restauré. Et même Paul, il va pouvoir dire par la suite, Marc qui m'est utile. Et on voit ce changement extraordinaire dans la vie de Jean-Marc. À un moment donné, on ne peut pas compter sur lui. Il va abandonner. C'est triste. Mais il ne va pas rester là. Et par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, il sera transformé. Il sera transformé pour être utile à Paul, à Pierre, à ses frères et sœurs auxquels Pierre écrit ici. Et lorsqu'on voit cela, on se dit, Dieu, il fait son œuvre en moi. Et peut-être aujourd'hui, je ne suis pas aussi fidèle que je devrais être. Mais tout n'est pas perdu. McDo, vous le savez, a cette expression, venez comme vous êtes. Et première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est presque biblique ça. Parce qu'effectivement, il faut venir comme on est. Par contre, ils oublient de dire, ne restez pas comme vous êtes. Parce que Dieu nous reçoit tel que nous sommes, avec tout notre travers, notre péché, notre passé. Oui, il faut venir à Dieu tel que nous sommes. Mais en aucun cas est-il question de rester tel que nous sommes. Non. Silas, Marc ne sont pas restés. Par la grâce de Dieu, ils ont été transformés. C'est la grâce de Dieu qui a fait cela. Et aujourd'hui, dans votre vie, dans la mienne, s'il y a eu quelque changement que ce soit dans notre vie vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, parce que Marc, Silas, Pierre, Paul, ils étaient dans le ministère, ils travaillaient pour Dieu. Comment ? Par la grâce de Dieu. Et du coup, ici, ce changement, c'est la grâce de Dieu. Lorsque nous regardons notre vie, est-ce qu'il y a eu un changement ? Depuis le moment où nous nous sommes convertis, ou que Dieu nous a sauvés, vous pensez à ce moment, est-ce qu'il y a eu un changement ? Il est peut-être petit, il est peut-être grand. Pour certains, leur vie avant le salut était tellement loin de Dieu que maintenant qu'ils sont près de Dieu, le contraste il est tellement énorme. D'autres, comme ils n'étaient pas trop loin, ne vivaient pas une vie vraiment mauvaise, de débauche et tout, lorsqu'ils viennent à Dieu, le changement n'est pas si grand. Et pourtant, le changement doit être là. Et même pour l'enfant de Dieu, ça nous arrive par moments à baisser les bras, Bah, Jean-Marc, je suis certain, il n'est pas parti avec l'idée, ah, je vais abandonner en cours de route. Non, 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 non. Je suis persuadé que Jean-Marc, il est parti avec Paul et Barnabas en disant, je vais aller jusqu'au bout. Mais la réalité, c'est que bah, il ne l'a pas fait. Mais il n'en est pas resté là. Par la grâce de Dieu, non pas par ses propres efforts, mais par la grâce de Dieu, Jean-Marc a été restauré, il a été rendu utile par la suite. Alors, un changement de comportement. Il y a des choses qu'on fait avant qu'on ne fait plus. Il y a des choses qu'on ne faisait plus, qu'on ne faisait pas avant et que maintenant nous faisons. Et souvent, ça va être par petits changements. Prendre un pas et ensuite un autre et ensuite un autre. Et vous allez vous rendre compte que plus vous prenez le pas, plus vous avancez. Et tout ça par la grâce de Dieu. Et lorsque nous revenons au verset 12, oui, Pierre, il a parlé de cette grâce de Dieu. Il a évoqué Silas au verset 12, il évoque Marc au verset 13. Mais comment accéder à cette grâce de Dieu qui va produire ce changement de comportement en nous? Ben, Pierre, il dit, je vous ai écrit ce peu de mots pour vous attester, pour vous exhorter que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attaché est la véritable. Comment accéder à cette grâce? Ben, c'est à travers la Bible. Et vous allez vous dire, mais c'est trop simple ça. Lire un livre, ben, qu'est-ce que ça peut apporter? Et pourtant, ce livre, comme vous le savez, c'est la parole de Dieu. Et c'est en la lisant, en la méditant, comme dit Psaume chapitre 1, heureux celui qui médite, pas juste la lecture, mais la méditation. On lit un verset et on dit, mais qu'est-ce que ce verset veut dire réellement? Et comment est-ce que je peux l'appliquer à ma vie? Cette méditation de la parole est la façon d'accéder à cette grâce. Il n'y a pas de coup de baguette magique. Oui, Dieu opère des miracles aujourd'hui. Et parfois, on voit la transformation dans la vie de quelqu'un et on dit, là, c'est vraiment un miracle de Dieu, hein. Parce que cette personne est partie tellement loin et Dieu l'a ramenée, ou cette personne est allée tellement loin dans le péché et Dieu l'a ramenée. Mais ça passe par la parole de Dieu, la Bible. Tous les jours, nous devons être dans la Bible. Tous les jours, nous mangeons. À mon avis, il n'y a personne ici qui ne passe une journée sans manger. Ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais on mange, on boit, on prend soin de son corps physique. Et pourquoi ne ferions-nous pas autant, sinon plus, avec notre santé spirituelle? Comment est-ce qu'on grandit physiquement? On mange. Pour certains, on dit, on boit de la soupe. On me dit, Robert, tu n'as pas mangé assez de soupe dans ta vie, et pourtant j'en ai mangé, hein. Alors c'est pour ça que t'es pas grand. Bon, voilà. Mais il n'y a pas de formule magique. On veut grandir, on mange, on boit. On veut grandir spirituellement, pas de formule magique. C'est la Bible, c'est la prière également. Et c'est Dieu qui s'en occupe. Alors, nous voulons rester attachés à cette grâce de Dieu. Nous voulons nous assurer que nous sommes y attachés. Ben, regardons notre vie. Est-ce qu'il y a un changement de comportement? Est-ce qu'il y a des choses que nous faisons plus aujourd'hui que nous ne faisions pas avant? Est-ce qu'il y a des choses que nous avons éliminées de notre vie avec l'aide de Dieu que nous faisions avant? Et par cette occasion, je me permets de dire que, bon, là, on est dans les mois d'été. Bien sûr, les uns et les autres partent, l'assistance le dimanche matin, même le mardi soir, va être un peu moindre, mais je vous encourage. Je vous exhorte même, comme ici Pierre le dit, eh ben, les réunions de l'Église. La Bible les considère non pas comme optionnelles à laisser apprendre, mais quelque chose de nécessaire. Et que ce soit le dimanche matin. On commence à 9h45, je sais, ça fait tôt. Et pourtant, dans la semaine, on arrive à se lever pour mille et une choses plus tôt que ça. Le mardi soir, oui, c'est en plein milieu de semaine, on a nos occupations, nos obligations, mais passer des moments ensemble, la prière, la parole, être là, c'est tellement important. Et en dehors de cela, bah, le contact les uns avec les autres. Et on y arrive dans un instant. Mais voilà, ici, Pierre, il encourage, il exhorte, il pousse à cela. La grâce de Dieu, on y accède à travers la parole de Dieu, à travers la prière. Et ça se voit. Si ça ne se voit pas chez vous, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas en train d'accéder à cette grâce à travers la Bible. Vous avez peut-être délaissé la Bible. Vous ne la lisez plus autant, ou peut-être pas du tout, comme vous faisiez avant. Ça se voit. Ça s'entend. Et du coup, prenons cet engagement de revenir dans la Bible. Parce que c'est là où nous trouvons cette aide dont nous avons besoin. Pierre, ici, évoque, oui, à travers Silas, à travers Marc, un changement de comportement. Mais il évoque également un changement d'attitude. Puisque dans le verset 13, un changement d'attitude, l'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Un changement d'attitude vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont au loin. Alors, vous avez vu au verset 13 que Pierre, il évoque l'église. Alors, peut-être dans votre traduction, vous avez celle. Alors, C-E-2-L-E. Celle qui est élue ou l'élu qui est avec moi à Babylone. Alors, dans notre traduction, on est passé à l'interprétation. Puisque Pierre, dans le grec, ben, il emploie tout simplement le mot en grec pour « celle ». On ne sait pas exactement à qui il fait référence. Ceux qui ont traduit donc, cette traduction nous montrent manifestement qu'ils croient que c'est l'Église à Rome, où Pierre était. Certains croient qu'il s'agit de la femme de Pierre, puisque on le sait à travers d'autres passages, que Pierre était marié. Donc ici, il est possible que ce soit la femme de Pierre dont il est question, celle qui est élue avec lui, donc mise à part par Dieu. En tous les cas, il y a des personnes qui sont avec Pierre et lui, ainsi que ces personnes, donc Marc, qui sont à Rome. Alors, Pierre se trouve probablement ici à Rome. Donc, il parle de Babylone. Pourquoi Babylone ? Ben, parce que si Pierre est à Rome, eh ben, il a tout intérêt à ne pas le faire savoir. Et en parlant de Babylone, les chrétiens auraient compris que là, un peu le siège de, on va dire, du monde, du mal, de tout ce système mondain. Pierre écrit probablement sous le règne de Néron. Et nous savons toute la gentillesse que Néron avait pour les chrétiens, n'est-ce pas ? Et donc, si effectivement Pierre se trouve à Rome à ce moment-là, on comprend très bien qu'il ne veut pas le faire savoir à n'importe qui. Donc, il parle de Babylone pour décrire Rome, probablement. Après, ça pourrait se discuter, mais voilà, tout semble porter à croire qu'il est à Rome ici. Marc est avec lui et il dit ces personnes ainsi que lui-même saluent ces chrétiens auxquels il est en train d'écrire. Et justement, ce changement d'attitude. Pourquoi est-ce qu'on parle de changement d'attitude ? Puisque ces personnes étaient loin, ces personnes auxquelles Pierre écrit, étaient loin de Pierre, de Marc, de Silas, de toutes ces personnes qui étaient à Babylone, donc soit la ville ou bien Rome, peu importe où il était, ils sont au loin. Et pourtant, Pierre dit, par la grâce de Dieu, ce changement d'attitude fait que je m'intéresse à mes frères et sœurs qui sont au loin. Souvent, on dit la distance refroidit. La distance fait cesser les relations, les interactions. La distance pousse à l'indifférence. Et même avec nos moyens de communication aujourd'hui, je peux savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde à l'instantané, pour le meilleur, pour le pire. même avec nos moyens de communication aujourd'hui, la distance reste quelque chose qui pourrait pousser à l'indifférence, à l'oubli de nos frères et sœurs en Christ. Et comment garder au-devant de notre esprit cette pensée, nos frères et sœurs dans le monde, certains d'entre eux souffrent cruellement. Je dois penser à eux, je dois prier pour eux, je dois même communiquer avec eux si j'en ai la possibilité. Comment faire cela? Ben, encore une fois, c'est la grâce de Dieu. Ici, Pierre et ceux qui étaient avec lui peuvent envoyer leurs salutations et dire, ben, je pense à vous, parce que la grâce de Dieu était avec eux. Je suis frappé quand je lis les épîtres de Paul, peut-être vous l'avez remarqué également. Il termine parfois ses épîtres, ses lettres, en donnant toute une liste de noms, des gens qu'il connaissait personnellement. Et il dit, je salue un tel, un tel, un tel. Et on a toute cette liste de noms. Et on se dit, bah, Paul, pour retenir tous ces noms, parce que je veux bien croire qu'en passant dans les villes, Paul, il a rencontré littéralement des milliers de personnes. Et qu'il arrive à retenir des noms comme ça, c'est qu'il y pensait souvent. C'est qu'il priait pour ces personnes. Il les avait vraiment à cœur. Et comment ça? Tout simplement parce que Paul, il avait une bonne mémoire. C'était quelqu'un qui était proche des gens et tout. Non, non, non. C'est la grâce de Dieu, encore une fois. Et Pierre, ici, il envoie cette lettre et il pense à ces chrétiens qui sont au loin parce qu'il est rempli de la grâce de Dieu. Et qu'en est-il de nous? Nous savons théoriquement que nos frères et sœurs souffrent dans le monde. Mais est-ce qu'on s'y intéresse vraiment? Et je me pose cette question également. Je me tiens un peu informé, mais est-il possible par la grâce de Dieu, encore une fois, que je me tiens encore plus informé? Sûrement. Tout dernièrement, je crois que c'était cette semaine, un pasteur a été libéré, je crois que c'est en Turquie. Donc, gloire à Dieu. Mais moi, je ne savais même pas que ce pasteur, il était emprisonné. Hein? Bon, on va dire ça, c'est loin et tout. Oui, mais c'est quand même quelqu'un qui travaille pour le Seigneur. Et puis à droite et à gauche dans le monde, il y a des gens qui sont emprisonnés, il y a des gens qui sont même mis à mort, il y a des personnes qui souffrent, qui perdent tout ce qu'ils ont. Et est-ce que nous prions pour ces personnes? Quelle est notre attitude vis-à-vis de nos frères et sœurs qui souffrent dans le monde? Quelle est notre attitude vis-à-vis de ceux qui réussissent? Des églises qui grandissent, des églises qui ont de nouveaux bâtiments, qui ont de nouveaux projets et tout. Quelle est notre attitude? Est-ce que nous nous réjouissons avec nos frères et sœurs? Ou plutôt, est-ce que la distance nous pousse un peu à l'indifférence? Et encore une fois, je le dis pour moi-même également. C'est une lutte constante. Mais la grâce de Dieu nous aide à avoir ce changement d'attitude vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont au loin. Mais également, et c'est là qui est tellement extraordinaire, verset 14, la grâce de Dieu, et uniquement la grâce de Dieu, nous permet d'avoir un changement d'attitude par rapport à nos frères et sœurs qui sont prêts. Et c'est là beaucoup plus difficile. Regardez verset 14. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Alors les Français, ils ont tout compris ici. Okay. Donc on fait la bise, c'est super sympa. Donc on a compris. Les Américains, ils n'ont rien compris là-dedans. D'autres pays, d'ailleurs la France est un des rares pays qui le fait. Bon, laissons cela de côté. Ici, au verset 14, Pierre pousse ses chrétiens à se saluer. Et là, sans distinction. Et pourquoi est-ce que cela est tellement extraordinaire? Et pourquoi avons-nous besoin de la grâce de Dieu pour faire cela? Parce que, malheureusement, même dans l'Église, et vous le savez, il y a les gens avec lesquels nous sommes plus proches que d'autres. Il y a des gens que nous préférons saluer plus que d'autres. Et j'imagine, j'espère que ce n'est jamais le cas, mais j'imagine qu'il pourrait venir dans l'esprit de quelqu'un qui se lève le dimanche matin, qui se prépare pour aller à l'église. Cette personne se prépare et puis se dit, « Ah, Seigneur, j'espère qu'un tel ou tel n'est pas là ce matin. Ah, Seigneur, ce matin, j'ai vraiment pas trop envie de voir un tel ou tel ou une telle ou telle. » Ça n'arrive jamais, n'est-ce pas? J'espère que non. Hein? Nous ne devons jamais avoir ce genre de réflexion et pourtant, même en tant qu'enfant de Dieu, il arrive que, bah, il y a des tensions, Il arrive que, on parle mal, on froisse, on critique, on agit mal, on dit quelque chose et là, on est frustré. Là, on est irrité et là... Et ici, Pierre dit, saluez-vous les uns les autres, sans exception. Il ne dit pas, saluez-vous tout simplement tous ceux qui vous aimez, qui vous appréciez. Saluez-vous les uns les autres et qui sont proches les uns des autres. Non. Saluez-vous. Tous. Ensemble. Et c'est pas juste de loin, saluez-vous. Non, il parle de baiser d'affection. Vous savez, il faut s'approcher pour faire ça. Il y a le contact humain. C'est pas juste de loin, je salue tout le monde, comme parfois je le fais le dimanche matin quand je n'ai pas l'occasion de le faire pour tout le monde. Du pupitre, je dis, bienvenue à tous, je vous salue. Bon, ce n'est pas de cela que ici Pierre parle. C'est vraiment ce contact, ce rapprochement. Et encore une fois, ce n'est que la grâce de Dieu qui fait ça. Et parfois, on peut se dire, oui, mais pour moi, pour supporter un tel ou tel, il faut vraiment la grâce de Dieu. Hein. Vous savez, telle ou telle personne, elle mérite, mais vous ne pouvez pas savoir comment. Et là, il faut vraiment la grâce de Dieu. Ok, bon, vous comprenez. La grâce de Dieu est assez puissante pour nous permettre de saluer, de même de nous rapprocher de n'importe quel frère et sœur. Si nous sommes frères et sœurs en Christ, il n'y a rien, et je dis bien rien, qui devrait définitivement venir entre nous, engendrer des discordes, des incompréhensions, des malentendus. Rien qui devrait définitivement. Okay? Ça peut arriver à un moment donné, et ça, il faut régler. Parce que parfois, on parle mal. Moi, le premier à le dire, parfois on s'exprime mal, parfois on ne prend pas les mots qu'il faut, on n'a pas la bonne attitude et voilà, on ne pense pas trop et puis on dit quelque chose ou même on fait quelque chose et on froisse quelqu'un. On fait mal même. Mais la grâce de Dieu nous permet, dans ces moments-là, si nous avons eu tort, d'aller demander pardon. Si quelqu'un nous a fait tort, d'accorder ce pardon lorsqu'il est demandé. Et dans n'importe quelle circonstance, Pierre ici appelle les enfants de Dieu, qui le sont véritablement, pas juste les chrétiens, on va dire en général, parce que le mot chrétien, il veut dire tout et rien en fait. Non, les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ par la foi, sont appelés à se rapprocher, sont appelés à régler leurs problèmes, sont appelés à être en contact les uns avec les autres. Et la grâce de Dieu est assez puissante pour nous aider à régler tout. Vous pouvez me soumettre la situation la plus complexe, la plus difficile, parce que Dieu le dit dans sa parole, moi je peux dire, la grâce de Dieu peut aider à régler ça. Dieu est un Dieu puissant. Et sa grâce est puissante. Et lorsque nous réfléchissons à notre vie, bien sûr, comme nous en avons déjà parlé, il y aura des personnes avec lesquelles nous aurons plus d'affinité. Si elles ont les mêmes centres d'intérêt, il est normal qu'on va graviter un peu plus vers telle ou telle personne. Quelqu'un qui s'intéresse au golf, ça ne m'intéresse pas trop. Je trouve ça assez barbant. Je ne vois pas trop l'utilité. En plus, c'est cher. Alors, pourquoi dépenser des sous là-dedans? Mais bon, il y a des gens qui aiment bien cela. Pareil avec le tennis. Okay? Le tennis, je ne comprends pas. Et pourtant, il y a des gens qui sont vraiment passionnés de ça. Ok, très bien. Mais comme on n'a pas les centres d'intérêt communs, peut-être que je ne serai pas trop proche de cette personne. Et pourtant, si c'est un frère, une sœur en Christ... Là, on devrait avoir quand même un rapprochement. Et je ne serais peut-être pas aussi proche de cette personne-là que quelqu'un qui aime bien des voitures, par exemple. Alors là, on serait très bon ami. Mais cela n'enlève en rien mon obligation, par la parole de Dieu, d'être aussi, de faire un rapprochement avec cette autre personne qui n'a peut-être pas exactement les mêmes centres d'intérêt que moi. Et ici, Pierre avait peut-être en arrière-plan, et il a un peu exprimé à travers toute son épître, ces paroles de Jésus. Il les avait entendues de ses propres oreilles. Aimez-vous les uns les autres? Je vous donne un commandement nouveau. Jésus a même dit, et Pierre l'a entendu, aimez vos ennemis. Alors, encore une fois, qu'il soit très clair, les frères et sœurs de l'Église ne sont jamais nos ennemis. Ne pensez jamais que votre frère, votre sœur en Christ soit votre ennemi. C'est faux. L'ennemi, c'est Satan. Nous en avons parlé il y a quelques semaines. Mais nos frères et sœurs ne sont jamais nos ennemis. Et si nous sommes appelés à aimer nos ennemis, à plus forte raison, nous sommes appelés à aimer, à faire du bien à nos frères et sœurs. Et encore une fois, c'est la grâce de Dieu qui fait ça. Ce ne sont pas mes propres efforts. Je me lève le matin et je m'arme de l'amour et voilà, je veux faire du bien. Non, non, non. C'est je me lève et je m'arme de la grâce de Dieu que je trouve dans la Bible. Et c'est quelque chose qui doit être continuel. Quand il dit « saluez-vous », c'est continuel. Ce n'est pas juste en début d'année, voilà, je salue et puis c'est bon pour l'année. Non, 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 non. On se voit pour la plupart au moins le dimanche matin. Et là, toutes les semaines, cette salutation, c'est ce rapprochement qui doit se faire. Et puis, ça doit continuer dans la semaine. Ici, l'idée que Pierre il a en tête, c'est à chaque fois qu'on se voit. Et ça doit être régulièrement. Ne nous privons pas de ces moments de pouvoir nous voir, de pouvoir nous faire du bien les uns les autres. Quand vous pensez à l'Église, aux réunions de l'Église, quelle est la pensée qui vous vient dans l'esprit? Ah non, encore. Ah non, mais je vais devoir encore aller. Alors, j'espère que non. Notre pensée, et la grâce de Dieu peut nous aider à la voir, doit être, gloire à Dieu, j'ai le privilège d'aller dans la maison de Dieu. J'ai le privilège d'aller voir mes frères et sœurs. J'ai le privilège de faire avancer l'œuvre de Dieu ensemble. J'ai le privilège d'encourager mes frères et sœurs. J'ai le privilège d'être encouragé par mes frères et sœurs. Quand Pierre dit « Saluez-vous les uns les autres » par ce baiser d'affection, ce saint baiser comme d'autres traductions vont le faire, ce rapprochement, même ce contact physique, on va tous dans la même direction, on sert le Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui fait tout cela. Ce changement d'attitude vis-à-vis de ceux qui sont loin, pour ne pas tomber dans l'indifférence, vis-à-vis de ceux qui sont prêts pour pouvoir agir envers eux comme Dieu veut que j'agisse. Et à la fin, Pierre, son ultime requête, son désir qu'il exprime tout en dernier pour qu'on prenne vraiment cela à cœur, regardez, que la paix soit avec tous. Que la paix de Dieu. Mais comment l'obtenir, cette paix, alors qu'il y a la persécution, comme pour ces chrétiens? Alors qu'il y a de l'incompréhension? Alors qu'il y a de l'injustice? Alors qu'il y a de l'incompréhension? Alors qu'il y a des tensions? Alors qu'il y a de l'irritation? Alors qu'il y a de la frustration? Alors que... Et là, vous mettez tout ce que vous voulez. Non mais la paix, comment la voir au sein de ça? C'est pas possible. Et si, cela est possible, encore une fois, par la grâce de Dieu. Et je me pose la question, est-ce que Pierre, il pensait peut-être au moment où, sur le lac de Galilée, au milieu de la tempête, Jésus, il dort dans la barque. Il est là. Ces marins, qui étaient des hommes solides, qui savaient affronter presque tout, et bien là, les vagues arrivent, le vent, et puis eux, ils sont tout effrayés, ils pensent qu'ils vont mourir. Donc, ils sont dans tous leurs états, et Jésus dort. Si ce n'est pas ça la paix, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et en priant ici, que la paix soit avec vous tous. Je me demande si Pierre ne pensait pas à cela. Il s'est dit, Jésus, il avait cette paix. Et cette même paix que j'ai vue en Jésus, je veux que vous l'ayez également. Cette paix au milieu de nous, parce qu'encore une fois, ce n'est pas facile entre frères et sœurs, on est humain. On agit mal parfois, on pêche. Et il faut que cette relation soit restaurée. Et là, la paix reviendra. Et puis, la paix avec le monde. Aujourd'hui, le monde ne nous comprend pas. Ben, vous donnez à l'église, vous allez à l'église, vous vous consacrez, vous donnez de votre temps, de votre énergie, de votre argent, mais c'est du temps perdu. Le monde ne comprend pas et du coup, ça emmène parfois des conflits. Mais même au sein de cela, nous pouvons être en paix. Comment ? Parce que tout va bien ? Parce que tout est tranquille ? Non, mais parce que Dieu est avec nous. Parce que sa grâce nous soutient. Et encore une fois, cela passe par du temps dans la parole. Ne croyez pas que vous pouvez accéder à la grâce et la paix de Dieu en faisant abstraction à la parole de Dieu. Impossible. Je vous le dis déjà, c'est futile d'essayer d'avoir la grâce de Dieu, d'avoir la paix sans passer par la Bible. Totalement impossible. Par contre, lorsque nous sommes tous les jours, de façon régulière, dans la parole, ben là, Dieu peut agir. Et il agira. Et quand Pierre ici dit « La paix soit avec vous tous », c'est comme il le dit pour nous également. Les gens de Vernon, 21e siècle, le 29 juillet 2018, Pierre fait cette prière pour nous également, que cette paix de Dieu soit avec nous. Encore une fois, si nous sommes en Christ, si nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel, à ce moment-là, Pierre priait pour nous pour que nous ayons la paix de Dieu et puis cette grâce de Dieu qui agit, qui peut être vue par un changement de comportement, par un changement d'attitude. Alors, examinez votre comportement cette semaine. Examinez vos pensées, votre attitude. Est-ce qu'il y a des marques de la grâce de Dieu? Si oui, ben, gloire à Dieu, continuez. Sinon, il faudrait peut-être passer plus de temps dans la parole. Il faudrait peut-être passer plus de temps dans la prière. Il faudrait peut-être passer plus de temps avec des frères et sœurs solides. Parce que Dieu peut le faire. Si nous nous donnons les moyens d'accéder à cette grâce, qui est accessible à tous les enfants de Dieu. Alors voici le changement que Dieu veut voir en nous. Pierre le voulait pour les chrétiens de son époque, et Dieu par Pierre nous le dit pour nous aujourd'hui. Alors la question reste, qu'est-ce que nous allons faire? Quel choix? Un choix sera fait ce matin. Personne ne peut rester indifférent. Un choix sera fait. Est-ce que je vais permettre à la grâce de Dieu d'agir ou non? Nous savons quel choix Dieu veut que nous fassions. Alors, nous allons prier, demander son aide pour faire le choix de le laisser, de laisser la grâce de Dieu agir dans notre vie. Prions. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi. Rien n'est caché à tes yeux. Tu vois notre vie, nos pensées, notre attitude telle que nous sommes. Tu vois aussi toute la puissance, toute la grâce que tu veux déverser dans notre vie. Que tu puisses enlever tout obstacle à cela dans notre vie. Que nous ne soyons pas résistants, que nous ne soyons pas indifférents, mais au contraire, que ta grâce soit évidente dans notre vie par ces changements. Que tu nous rends forts pour toi, par ta puissance. Que tu puisses nous aider à grandir plus proche, ensemble, grandir avec toi, aller de l'avant, afin que ton nom soit exalté, qu'il soit évident que c'est toi qui es à l'œuvre, afin que tu puisses recevoir toute l'honneur et toute la gloire. C'est en ton nom que nous prions. Amen.